Christian-Louis Joseph, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général
Syndicat des entrepreneurs en BTP de Martinique.
Alors, votre organisme est connu, c'est celui qui rassemble, disons, les principales entreprises et le secteur du BTP. Et aujourd'hui, vous avez organisé in situ une conférence de presse pour informer la population, les autorités et les différentes personnes sur la situation du BTP. Est-ce bien cela?
Le CEBAM existe, c'est le plus vieux syndicat de Martinique. Nous existons depuis 1958 et je crois que nous avons été les animateurs de la gestion des relations avec le monde des salariés depuis de très très longues années. Nous avons signé énormément d'accords à la plus grande satisfaction, je crois, des uns et des autres. Alors, s'agissant de la conférence de presse d'aujourd'hui, elle est organisée à la fois par notre syndicat, mais également par les autres syndicats de la profession. Il en existe trois ou quatre qui sont des syndicats d'artisans, et également avec l'appui, avec le soutien de l'intersyndicale des ouvriers du BTP, et des ouvriers et des États d'ailleurs.
Alors, la situation est grave d'après ce que vous dites.
La situation est extrêmement grave. Disons que depuis 2010, je devrais dire depuis 2008, le marché a reculé dans des proportions considérables, hein, de l'ordre de 30 à 40%, mais nous croyons que nous avions touché le fond en 2015 et nous constatons que la situation s'est encore aggravée, s'est encore détériorée au cours des 2 dernières années.
Est-ce que vous pouvez nous donner, Christian Joseph, quelques chiffres sur le secteur lui-même, le nombre d'employés, le nombre d'entreprises, par exemple?
Alors, je peux vous donner des chiffres sur les entreprises qui occupent des salariés. Il y en a environ 800 en Martinique. On en a perdu 200 à 250 depuis 2008. Quant au nombre de salariés, ceux qui sont déclarés tout au moins, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui malheureusement travaillent dans des conditions d'illégalité, il était de l'ordre de 7 000 en 2008-2009. Il est tombé aujourd'hui à 5 000. Nous en avons perdu 2 000. Et j'ajoute que si cette décrue du nombre de salariés n'a pas été aussi importante en pourcentage que celle du ciment, par exemple, ou des enrobés, c'est tout simplement parce que la durée moyenne de travail des salariés a diminué, c'est-à-dire chaque salarié fait moins d'heures, et que vous avez également dans les entreprises le recours au chômage partiel,
permet
de maintenir les salariés dans les registres de l'entreprise.
D'accord. Alors, sur, disons, ces 1 000 entreprises, ces 800 entreprises officielles, ces 1 000, disons, existantes et ces 7 000 personnes travaillant dans le secteur, on a un équivalent du secteur de la banane, là.
On est en équivalent largement, on est au-dessus. Parce que il faut bien comprendre que vous avez les entreprises de la construction elles-mêmes, mais vous avez énormément d'activités qui ne sont pas répertoriées comme étant entreprises de construction, mais qui dépendent du BTP. L'INSEE a sorti récemment, vient de sortir une étude qui donne 10 000 employés dans les métiers du BTP, dont un peu moins de 60% dans les entreprises. C'est-à-dire que vous avez 40% des gens qui font un métier du BTP, qui sont dans les collectivités, dans les entreprises, dans les assurances, etc. Et tous ces gens dépendent de l'activité de construction. Si l'activité de construction diminue, on n'aura plus besoin de ces personnes dans les entreprises où elles se trouvent. Mais vous avez également des entreprises industrielles. On a eu le chiffre dernièrement, vous avez 53 petites entreprises industrielles qui travaillent pour le BTP, qui emploient 600 ou 700 personnes. Hein, ce sont des gens qui produisent des tôles, qui produisent des éléments de métal, etc., ou qui interviennent en canalisation, etc., etc. Vous avez ça, vous avez les transporteurs. Il y en a plusieurs centaines. Vous avez bien entendu tous les services aux entreprises, des experts comptables, etc., les assurances qui travaillent pour le BTP. Donc le secteur a un impact économique extrêmement important. Et si le secteur s'effondre, c'est un pan entier de l'économie de la Martinique qui se casse la figure. Et je suis persuadé que ce à quoi on assiste aujourd'hui et qui devrait inquiéter, à savoir que le chômage est en train d'augmenter, alors même que vous avez une émigration des Martiniquais, C'est incroyable. On aurait pu penser que les chômeurs immigrants, il y en aurait moins. Non, le chômeur augmente, le chômage augmente, le nombre d'emplois d'ailleurs diminue. Ça veut bien dire qu'il y a quelque part quelque chose qui ne marche plus. Et je crois que c'est en grande partie la situation du BTP et des activités annexes qui créent ce problème.
Christian Louis-Joseph, quel est le poids financier du secteur du BTP aujourd'hui à la Martinique ? Est-ce qu'on a des chiffres ?
Si vous parlez de chiffre d'affaires, c'est autour de 800 millions d'euros. C'est le dernier chiffre donné par l'INSEE il y a un ou deux ans sur l'activité du secteur. 800 millions d'euros. Sur un PIB total de 8 milliards 5, donc c'est à peu près 10%.
Alors, contrairement aux secteurs qui sont aidés, la santé, la banane et compagnie, c'est un secteur qui n'est pas subventionné dans son mode de financement, dehors des fonds européens qui sont portés sur un certain nombre de chantiers. Mais quels sont aujourd'hui, disons, les donneurs d'ordre dans ce secteur et est-ce que vous avez la part du public et la part du privé sur ces 800 millions d'euros ?
Malheureusement, non. Je ne pourrais procéder qu'à ce qu'on appelle un deal d'expert, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde un peu et qui au nez.
Et au nez, ça donne quoi à votre
avis ? Moi, je dirais que ce serait 65-70% pour la commande publique.
70%
à peu près pour la commande publique, je crois.
Et le secteur privé faisant le reste.
Faisant le reste, oui, tout à fait.
D'accord, à peu près 200 et quelques millions, quoi.
Voilà. Alors, d'accord. Disons que dans le secteur public, j'inclus les organismes d'HLM, notamment le logement social.
D'accord. Donc, ça veut dire, grosso modo, que pour impulser les choses, il faut environ 500 et quelques millions, un TCSP par an. Mais est-ce que c'est possible, Christian Louis-Joseph?
Non, ce n'est pas possible. Mais il y a un TCSP par an, en tout cas, surtout s'il doit prendre autant de temps à fonctionner que celui-là, ce n'est ni possible ni souhaitable.
Oui, mais enfin, le fonctionnement, ce n'est pas le secteur du BTP. Le secteur du BTP a fait son boulot, je crois.
Il a fait son boulot, si vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Non, je crois qu'il y a énormément de secteurs qui demandent. Les HLM, par exemple, pourraient facilement mettre, si vous mettez 1000 logements par an à 100-150 000 euros, ça vous fait déjà quand même pas mal d'argent. Vous avez des investissements nécessaires. Vous avez un plan eau qui prévoit quand même quelques centaines de millions sur plusieurs années, bien entendu.
Plan d'assainissement également.
Vous avez un plan d'assainissement. Vous avez le confortement parasismique de tous ces équipements qui est indispensable et qui est urgent. Hein, je crois que sans retrouver forcément les 800 millions, on peut retrouver les moyens de faire fonctionner ce secteur. Étant entendu, et j'y insiste, il ne s'agit pas de faire fonctionner le secteur pour le faire fonctionner parce qu'il y a des emplois, il s'agit de faire fonctionner le secteur parce que la Martinique a besoin que ce secteur fonctionne. C'est extrêmement important.
Le savoir construire est important aujourd'hui à la Martinique. Sans compter que c'est un savoir-faire qui disparaît. Hein.
C'est un savoir-faire qui disparaît parce que la population vieillit, parce que les entreprises qui n'ont pas de perspective n'embauchent pas de jeunes. Hein, moins de 10% de jeunes aujourd'hui dans les entreprises du BTP. Donc il n'y a pas de formation et vous avez en fait toutes ces bibliothèques qui sont en train de disparaître sans qu'on renouvelle les compétences dont elles disposaient.
D'accord. Donc vous êtes là en train de vraiment nous décrire un vrai secteur en crise. D'accord. Alors, avant de chercher les solutions, puisque j'ai bien compris que ce qui est attendu, c'est que les organismes qui peuvent le faire pour les 70% fassent, disons, leur part du boulot. Est-ce que le secteur fait aussi son autocritique ? Parce qu'un secteur n'est pas en crise par hasard non plus.
Non, un secteur n'est pas en crise par hasard, forcément. Si son marché s'effondre notamment, il a forcément des problèmes. Il y a une autocritique, certainement, dans les comportements, dans le fonctionnement des entreprises. Il y a des choses à améliorer.
Vous pouvez nous en parler, Christian Louis-Joseph, à votre avis, parce que vous êtes un expert sur la question.
Non, pas si expert que ça. Je pourrais vous dire que vous aurez des réponses la semaine prochaine. Vous avez l'organisation d'ateliers du BTP où pendant 3 jours, un certain nombre de questions seront posées sur la manière de mieux organiser la profession, sur la manière d'envisager son avenir, etc. Et tout ça va faire l'objet de comptes rendus qui seront intéressants à regarder. Moi, si on me posait la question de savoir quel est le problème de la profession, je dirais que le problème premier, c'est celui de son individualisme. Je crois que ce secteur a malheureusement n'a malheureusement pas fait l'effort d'avoir une réflexion collective et une pensée collective. Et je crois que d'une certaine manière, elle est en train de le payer. Elle est en train de le payer. Cela dit, je pense qu'il y a une responsabilité de la part de ceux qui ont la charge de réguler, d'organiser l'activité économique de la Martinique. Et ce qu'aujourd'hui nous demandons, c'est la possibilité d'échanger de manière constructive avec eux. Et le sentiment que j'ai depuis longtemps, c'est qu'il y a une sorte de défilement. On essaie d'éviter autant que possible d'entrer dans le vif du sujet. Et ça, c'est gênant.
Alors, on essaie, vous dites, d'éviter de rentrer dans le vif du sujet. Vous voulez dire que le secteur du BTP n'intéresse pas les politiques ?
J'ai le sentiment que le secteur du BTP, en tant que collectif, n'intéresse pas particulièrement les politiques. J'ai le sentiment depuis longtemps, et ça je vous restitue un sentiment qui se nourrit de l'expérience que j'ai de cette profession, j'ai le sentiment que les politiques ont toujours choisi d'avoir comme interlocuteur des individus plutôt que des organisations. Parce que les individus sont plus faciles à manœuvrer, il est plus facile de les dresser les uns contre les autres. Et c'est peut-être ça l'objectif recherché.
D'accord. Alors, si je comprends bien, vous dites aujourd'hui la profession n'est pas organisée. Il est plus simple pour un politique d'avoir un copain dans une entreprise. C'est aussi, dans une certaine mesure, plus simple de pouvoir s'échanger, de se rencontrer. On connaît toutes les histoires autour des politiques et du BTP. C'est aussi une certaine promiscuité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se plaindre qu'il y ait quelqu'un qui dise « Moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là » Et je pense en particulier à Daniel Marie-Sainte qui, lui, dit « Je ne veux pas rencontrer les lobbies. Si on doit faire quelque chose, qu'on nous fasse des propositions, qu'on analyse. » Est-ce que vous comprenez ça ou est-ce que vous considérez qu'il y a une autre approche à avoir?
Je ne partage pas du tout votre sentiment. D'abord, j'ai dit que les politiques préfèrent avoir des relations individuelles pour toutes sortes de raisons, mais je n'ai pas parlé de copinage, même si, évidemment, ça peut exister. Mais
enfin, bon, je veux dire, Christian Joseph, vous êtes comme moi-même, vous avez sans doute une meilleure mémoire des événements. Votre expérience du secteur, avant moi en tout cas, vous permet de savoir qu'il s'est passé pas mal de choses. La presse en a parlé. C'est pas inventer des choses que de dire qu'il y a eu, dans certains moments, une promiscuité entre le monde du BTP et le monde politique.
Oui, entre certaines personnes du monde du BTP et certains politiques, je ne voudrais pas porter de jugement général et je ne voudrais surtout pas que l'importance de la discussion qu'on peut avoir aujourd'hui soit polluée par ce qui pourrait être pris pour des insinuations. Par exemple, dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites de Daniel Marie-Sainte pourrait laisser croire à des gens que je pense que Daniel Marie-Sainte est dans une relation de promiscuité avec des entreprises. Non, pas du tout. Je pense que son attitude actuellement, en tant que porte-parole de la CTM, quand je lis ce qu'il écrit sur sa volonté de travailler au service du peuple martiniquais, des ouvriers martiniquais, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ce qu'il dit et ce que pensent les gens au service desquels il prétend travailler. Les gens au service desquels il prétend travailler disent « on voudrait des informations, on voudrait discuter de ce que vous prétendiez faire pour nous ». Lui dit « je fais, je ne parle pas avec vous ». Et en plus, quand vous dites des lobbies, un syndicat professionnel a un comportement de lobbyiste à certains moments, mais un syndicat professionnel, c'est avant tout un corps intermédiaire qui est censé pouvoir discuter avec les corps politiques sans être soupçonné de faire du lobbyisme. Nous demandons à rencontrer les politiques, à savoir ce qu'ils font, et il est trop facile de dire « je travaille pour vous », alors que moi, je ne sais pas ce que vous faites pour moi et je ne suis peut-être pas d'accord avec la manière dont vous voyez ce dont j'aurais besoin. Il faudrait au moins que je puisse vous le dire.
Mais vous avez une réunion en préfecture, Christian-Louis Joseph, qui vous a permis de connaître la commande publique, les différents éléments tels que les choses seront pour les 2 ans à venir. Et la CTM y était présente, non ?
Ça, je vous prends en flagrant délit de sous-information. J'ai été à cette réunion. Le préfet a évoqué un certain nombre de travaux mais il les a évoqués un peu de mémoire. Mais nous attendons toujours le document écrit qu'il nous a promis. Je pense qu'ils sont en train de le réaliser. Espérons qu'il va venir. Et quant à la CTM, nous avons entendu des généralités, mais pas tellement de prévisions. Et si vous prenez le bilan présenté par la CTM pour 2017 avec les prévisions pour 2018, vous y verrez, elles sont sur le site, j'espère qu'elles sont encore sur le site de la CTM, vous constaterez que les travaux prévus pour 2019, pour 2018, sont de moitié inférieurs à ce qui a été prévu pour 2017, et encore, ces travaux consistent essentiellement d'ailleurs en études, etc. C'est-à-dire que si on s'en tenait, si on devait s'en tenir à ce qui a été présenté dans le bilan 2017, 2018 ce serait une année extrêmement mauvaise pour le BTP.
Est-ce que ça veut dire, Christian-Joseph, que ni l'État ni la CTM aujourd'hui n'entendent le secteur du BTP?
Je pense qu'il y a, mais c'est absolument curieux. Je vais prendre le problème par un autre bout. Je crois que malheureusement, et l'État a peut-être été contaminé par cette manière de voir les choses, si vous ne faites pas une action brutale et violente, on considère que vous n'avez pas de problème. Si vous essayez de dire « discutons », on ne vous recevra pas. Tant que vous n'aurez pas bloqué les rues, mis le feu à quelque chose, etc., on considérera, d'ailleurs, bien des journalistes disent « Vous agissez quand ? Vous bloquez quand ? » Nous, on n'a pas l'intention de bloquer. On a l'intention. On veut souligner la difficulté d'une situation et demander à en discuter. Voilà ce qu'on demande actuellement. Mais je crains, parce que ce n'est pas moi qui dirige les choses, je crains qu'un de ces jours, vous ayez effectivement des actions que personnellement je n'aime pas beaucoup, mais que les gens du secteur vont considérer comme nécessaires, comme inéluctables.
Alors, Christian-Joseph, dans le cadre de ce dialogue, il est prévu dans les jours prochains, au mois de mars, des ateliers du BTP. Je crois que vous y êtes impliqué et que ça se fait autour de plusieurs organisations. Est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que c'est le dialogue qui continue? Est-ce que c'est la profession qui s'organise? C'est quoi exactement?
Les assises des Outre-mer répondent à une volonté présidentielle. Des ateliers ont été organisés. Vous avez des gens qui ont été chargés d'animer ces ateliers. On ne nous a pas demandé de choisir d'ailleurs ce qu'ils devaient animer. Il y a un groupe BTP qui a été mis en place assez tardivement d'ailleurs. Nous y avons participé. Nous sommes en train de produire un certain nombre de fiches, mais et on peut espérer qu'elles seront prises en compte. Mais vous savez, je crains que ces assises des Outre-mer pour la Martinique ne donnent pas les fruits que certains en attendent. Et je vais vous dire pourquoi. Ces assises des Outre-mer sont une sorte de prêt-à-porter qui a été conçu pour toutes les collectivités des Outre-mer. Or, quand vous prenez la Réunion, par exemple, où l'activité n'est pas mauvaise, où la population est en croissance, ou quand vous prenez la Guyane, où il y a une explosion démographique, les situations ne sont pas du tout les mêmes qu'en Guadeloupe ou en Martinique. En Martinique, quel est le problème qui est unique dans l'espace français? Vous avez une population qui est en train de diminuer à toute vitesse. On a perdu 19 000 personnes de 2007 à 2018, au 1er janvier 2018. On va en perdre entre 30 et 50 000 d'ici 2030. Vous avez là des conséquences économiques qui sont extrêmement importantes. La consommation qui va diminuer, etc., etc. Vous avez en plus, ce qui est extrêmement important, une crise extrêmement grave des collectivités locales, dont l'épargne nette prise collectivement est proche de zéro. C'est-à-dire que ce sont des collectivités qui, sauf des subventions, ne peuvent pas investir et qui ne peuvent guère plus emprunter parce que justement, ils n'ont pas de capacité propre à rembourser leur dette. La dette n'est plus soutenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles seront obligées de diminuer leurs charges. Ce qui veut dire que Elles vont réduire les subventions aux associations qui font vivre pas mal de personnes. Elles sont probablement obligées de ne pas remplacer les départs à la retraite, de mettre fin aux contrats des contractuels qu'elles emploient. Ce qui veut dire que la situation économique de ces collectivités, qui pèse deux fois plus chez nous qu'en France, c'est-à-dire que les dépenses des collectivités locales en Martinique, c'est à peu près 24% du PIB, contre 11% en France hexagonale. Ça veut dire que la situation de ces collectivités va constituer un mécanisme accélérateur du problème démographique. Et nous sommes en train de nous retrouver dans une crise économique, nous allons être confrontés, nous sommes déjà d'ailleurs engagés dans une crise économique qui est absolument considérable. Il y a un problème global à poser. Et les assises des Outre-mer avec ces petits diagnostics sectoriels où on va trouver des petites solutions ici ou là, ne répond pas à la question posée. La question posée aujourd'hui, c'est qu'il nous faut créer des milliers d'emplois pour empêcher que nos jeunes s'en aillent, pour redonner un peu de dynamisme à la production.
Et il y aurait une attente de 50 000, disons.
Une attente de 50 000. Et à mon avis, il faut, à cet égard, revoir notre modèle social. Je vais vous donner un ou deux exemples. Alors, je pourrais vous dire d'ailleurs que créer des emplois, c'est peut-être s'occuper des secteurs qui sont en train de mourir, alors qu'ils ne le méritent pas, comme le BTP. Il y a des opportunités d'emploi dans le BTP. Mais vous avez, par exemple, la question du chômage, du travail à temps partiel. Les pays européens qui ont les plus bas taux de chômage, l'Allemagne ou les Pays-Bas, c'est des pays qui ont un taux de travail à temps partiel de l'ordre de 30% en Allemagne et même de 50% aux Pays-Bas. En Martinique, ce taux de travail à temps partiel n'est que de 13%. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir ce qu'on pourrait faire dans ce domaine-là?
Vous parlez carrément de partage du travail, en réalité.
Je parle de partage du travail. Mais vous avez une autre type de solution que j'ai évoquée parfois sans être suivi par personne. Vous avez une loi en France qui a levé un tabou, qui est de février 2016, et qui permet de mettre au travail des chômeurs de longue durée. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à ce genre de solution et mettre au travail nos chômeurs de longue durée, nos titulaires de RSA, et tous ces gens finalement, dont je ne dis pas qu'ils sont payés parce qu'ils ne travaillent pas, mais dont je dis qu'on les paye pour qu'ils ne travaillent pas? Est-ce qu'il n'y a pas toute une série de besoins dans cette économie? Prenez les sargasses, donc les questions de l'environnement,
L'éducation des enfants.
L'éducation des enfants, les soins aux personnes âgées. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer là des centaines, voire des milliers d'emplois qui seraient financés par les allocations actuellement, en déplaçant les allocations que ces gens reçoivent, peut-être en supprimant d'ailleurs certains avantages qui sont absolument indus. Je pense par exemple à cet abattement sur l'IRPP. Les gens qui gagnent des catégories élevées qui ont 5000 euros d'abattement sur l'impôt sur le revenu, mais j'ai tendance envie de dire que ce n'est pas juste. En tout cas, ça ne se justifie pas.
Oui, c'est un emploi pendant au moins 6 mois.
Voilà. Alors, on pourrait dégager. Il y a des choses à faire. Mais il faudrait qu'on accepte justement de prendre le problème de haut, de réfléchir, de revoir notre modèle social et de voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer les choses. Je ne crois pas, de même que les espoirs que l'on fonde sur le tourisme, l'économie bleue, etc., c'est vrai, mais ça va créer dans les années à venir quelques dizaines, quelques centaines d'emplois, alors que ce qu'il nous faut, c'est quelques milliers d'emplois qu'il faudrait créer dans les 3 ou 4 ans. Vous vous rendez compte que aujourd'hui, le taux de fécondité est tel que la population martiniquaise ne se reproduit pas. C'est-à-dire que si ça continue, elle va vers l'extinction pure et simple. C'est ça que ça veut dire. Et c'est de ça qu'il faudrait que les gens prennent conscience et que nous nous mettions tous à réfléchir sur les manières de sortir de cette situation.
D'accord. Donc en fait, vous dites que la crise du BTP peut être l'occasion de réfléchir sur un modèle de société. Ça veut dire qu'on est carrément aussi dans le domaine politique.
Ça veut dire qu'on est dans le domaine politique. Mais la politique, c'est l'art de diriger la cité. La politique ne doit pas appartenir au seul politicien. La politique appartient à tout le monde. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand vous donnez votre avis, on vous accuse de vouloir déstabiliser, d'aller contre, etc., etc., comme s'il n'était pas capable de se déstabiliser tout seul. On le voit bien.
Très bien. Christian Dujoseph, écoutez, je vous remercie de cet entretien que vous avez bien voulu nous consacrer. Nous essaierons de venir plus souvent vous rencontrer, puisque bon, je crois que votre parole est quand même adossée à une certaine expertise et une certaine connaissance de l'économie martiniquaise. Je vous remercie une fois de plus de cet entretien.
C'est trop aimable à vous, toutes ces bonnes paroles me font chaud au cœur, mais enfin c'est l'âge peut-être qui oblige à réfléchir un peu. Merci encore.